Bonjour à tous, BFM Politique en édition spéciale. Ce matin, édition spéciale consacrée à cette crise et cette guerre au Moyen-Orient avec une tension qui reste extrême. Un navire frappé ce matin au large des côtes du Qatar. L'Iran qui promet une lourde riposte contre Washington et ses bases si les Américains continuent de frapper des pétroliers iraniens. On décrypte tout cela dans un instant avec un invité exceptionnel, Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre. Merci d'être avec nous. Une semaine qui s'annonce cruciale aussi parce qu'elle sera celle du déplacement de Donald Trump en Chine. La Chine peut-elle jouer un rôle dans cette crise? Quelle est son implication? À mes côtés aussi, Jules Pecknard de la Tribune Dimanche. Bonjour Jules. Bonjour, Amandine Atalaya, éditorialiste politique BFM TV. Bonjour Amandine. Tout de suite, on rejoint l'une de nos équipes qui est sur le terrain. Vous savez, on en a partout dans le monde pour vous décrypter ce moment d'histoire qui continue de s'écrire sous nos yeux. Et tout de suite, c'est Marie Gentry qu'on retrouve à Abu Dhabi. Bonjour Marie, vous êtes sur place avec Anthony Métro. Un navire a donc été frappé ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles sont les informations dont vous disposez?
Eh bien, une information qui vient de nous parvenir de la part du ministère de la Défense du Qatar. Le Qatar qui confirme qu'un bateau, effectivement, a bel et bien été frappé par un drone au large de Doha. Ça s'est passé ce matin. Cette frappe a provoqué un incendie à bord du navire, un incendie qui a pu être rapidement éteint. Il n'y a pas eu de blessés. La question qui se pose maintenant, c'est qui était visé et qui a visé. Et là, eh bien, on a ces informations de la part de l'agence de propagande iranienne Fars, qui affirme qu'un bateau américain a donc été visé. Alors, on prend ces informations avec énormément de prudence, mais si cela est confirmé, ça voudrait donc dire que le bateau est américain et qu'il a été frappé par l'Iran, ce qui marquerait une nouvelle escalade entre les deux pays, sachant que la semaine a d'ores et déjà été marquée par plusieurs affrontements, parfois très violents, dans le détroit d'Ormuz, entre Américains et Iraniens. Tout cela alors qu'on est dans un contexte de négociation qui se poursuit entre Washington et Téhéran. Washington attend toujours la réponse à la dernière proposition d'accord qui a été soumise à l'Iran.
Marie, pour ce qui est du trafic dans ce détroit, est-ce que oui ou non, il y a des bateaux qui passent?
Alors, il y a des bateaux qui passent, mais c'est vraiment au compte-gouttes. Avec Anthony Métro qui m'accompagne, on scrute le site de Suez Maritime Marine Traffic et il n'y a que très très peu de mouvements. Il y a un bateau qatari qui a réussi à passer, il transportait du GNL, du gaz naturel liquéfié. S'il a réussi à passer, c'est parce que l'Iran a conclu un accord avec le Qatar et avec le Pakistan pour montrer un certain signe de confiance, sachant que le Pakistan et le Qatar jouent un rôle important dans les négociations avec les États-Unis. Mais ça fait plutôt partie de l'exception au final, parce qu'en fait, très peu de bateaux passent. Je vais vous donner un chiffre. Depuis mercredi, 6 bateaux sont passés par le détroit d'Ormuz. Comparé à ce qu'on avait avant la guerre, quand on parlait de 130 navires qui passaient par le détroit, c'est quasiment rien. D'ailleurs, la preuve en est, on a aussi cette information qui nous est parvenue ce matin, la guerre depuis le début a coûté 1 milliard de barils de pétrole au monde. Ça, c'est une information donnée par l'un des plus grands groupes saoudiens au monde, ce qui nous montre à quel point, effectivement, eh bien, le détroit est quasiment toujours fermé.
Merci beaucoup Marie pour ces précisions. Marie avec Anthony Métro depuis Abu Dhabi. Thierry Breton, on voit cette situation qui peut basculer à nouveau à tout moment. Un navire frappé au large du Qatar, deux pétroliers iraniens qui avaient été ciblés par les Américains, Téhéran qui menace d'une lourde riposte. Plus que jamais, la situation peut basculer, on le sent à nouveau dans, certains disent les escarmouches, d'autres disent de nouveaux affrontements. Comment vous décryptez cela?
Oui, d'abord il faut le redire. On est toujours dans la logique du cessez-le-feu.
Vraiment?
C'est absolument indispensable. C'est indispensable, et j'allais dire, pour les deux parties. D'abord, c'est indispensable pour Donald Trump. Parce que pour lui, c'est précisément parce qu'il a annoncé que précisément on avait terminé, maintenant la guerre était terminée, le conflit était derrière nous. Et il s'est appuyé sur le fait qu'il y avait désormais un cessez-le-feu, donc tout ça c'était derrière, donc il n'y avait plus besoin d'aller reconsulter le Congrès. Donc pour lui, c'est très important d'y rester. Et puis pour l'Iran, c'est très important de ne pas déborder avant, vous en avez parlé tout à l'heure, Guillaume Daré, la réunion cruciale qui va avoir lieu le 14 et le 15 mai à Pékin. Il faut jamais oublier que l'Iran est quand même, qu'on le veuille ou non, et on va en reparler,
absolument,
à la main de Pékin. Donc jamais l'Iran ne prendrait le risque de froisser Pékin dans ce moment si crucial. Donc on est, pour moi, dans une logique d'escarmouche. Vous savez, quand il y a des cessez-le-feu, bah, il y a toujours des escarmouches. Je crois qu'il faut lire ceci. Voilà, tout le monde est encore là, on est prêt, on a ce qu'il faut, on s'envoie des petits signaux, mais je crois qu'il faut le lire comme des escarmouches. Et évidemment, se focaliser sur ce qui va se passer dans 4 jours à Pékin.
Mais parfois des bombes, c'est ce qu'on a vu aussi.
Bien sûr, les escarmouches, par définition, c'est évidemment utiliser des armes. Et les armes aujourd'hui, c'est quoi? Dans cette guerre asymétrique, ce sont évidemment soit des drones, on vient d'en parler à l'instant, soit des missiles. Donc oui, évidemment, ce sont les armes, ou alors, éventuellement, ces fameuses vedettes moustiques, ou encore des drones sous-marins. Voilà les armes aujourd'hui qui sont utilisées sur ce théâtre d'opération.
Et c'est quoi la période que l'on est en train de vivre? Le grand bluff, si j'ose dire? On pourrait intituler ça comme ça, cette séquence-là?
Non, on est dans une logique, encore une fois, où les parties se regardent, où les parties sont en train d'évaluer la réalité des rapports de force, parce qu'on va finir, évidemment, dans une logique de rapport de force, et où chacun se met en meilleure position pour négocier et pour discuter et pour obtenir, j'allais dire, ce qui aura le plus de valeur politique. Politique, évidemment, parce que cette guerre, elle est totalement artificielle, on le sait. Donc maintenant, on est dans une logique de posture et de narratif. Il est indispensable que Trump ait son narratif. Il est très important que les Chinois l'aient encore, et aussi, on va en parler. Il est aussi important que les Iraniens l'aient, même si les Iraniens n'ont pas la même temporalité. On l'a dit, c'est très important. Contrairement à ce que certains ont pu croire, vous avez pu voir comme moi que la CIA ou des fuites de la CIA ont mentionné que contrairement à ce que certains pensaient, au fond, je dirais après 2 mois de guerre, les Iraniens ont encore une capacité très importante de production de missiles, à peu près 100 par mois, et également de stock.
Amandine.
Comment est-ce que ça peut se traduire tout ça pour la signature d'un éventuel accord? Les États-Unis ont fait une proposition aux Iraniens pour mettre fin au conflit. Les Iraniens disent, eux, que les États-Unis ne sont pas sérieux. Comment est-ce que vous comprenez cette déclaration des Iraniens et ça peut mener à quoi?
Il faudra une tierce partie. C'est clair maintenant pour tout le monde. Il faudra une tierce partie. Les Américains, faut le rappeler également, se sont démunis parce que ils avaient des très grands spécialistes de la chose iranienne et on sait que merci Elon Musk, grâce à son fameux Doge, la plupart ont été décimés évidemment sans se figurer, on n'est pas en Iran, mais enfin ils ont quand même quitté, ils ont été renvoyés. Donc les États-Unis se sont très gravement démunis en termes de capacité diplomatique. Or on rentre dans une phase diplomatique. Et c'est ça, évidemment, diplomatique, mais Guillaume Daret, avec évidemment en permanence aussi des maintiens, des rapports de force.
Ça peut être qui la tire ce parti alors?
Eh bien voilà.
Les Chinois, ça va jouer ou pas?
Eh bien voilà, et évidemment, on y arrive, parce que derrière, qui sont ceux, c'est absolument invraisemblable, j'allais presque dire pour certains observateurs, inimaginable, qui sont ceux qui apparaissent comme la puissance de, disons, de stabilité? On verra, en Chine, c'est pas stable, c'est compliqué en Chine aussi, et la point de vue économique, il faudra qu'on en parle, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Mais il n'en demeure pas moins que, vu de l'extérieur, les Chinois, la Chine, apparaît comme la puissance de stabilisation, et il faudra, pour répondre à votre question, eh bien, quelque part, un tiers de confiance. Un tiers de confiance, pourquoi? Parce qu'à la fin, on va lever, évidemment, le blocage iranien du détroit d'Ormuz, on lèvera le blocage américain des ports iraniens, c'est évidemment les termes de la base de cet accord, mais le reste demeure, c'est-à-dire quid de l'incapacité souhaitée, à juste titre du reste, que l'Iran n'accède pas à l'arme nucléaire, la bombe A, et là, eh bien, il faudra évidemment un tiers de confiance, et devinez quoi? Bis repetita, on va être obligé de revenir à 10 ans en arrière, avec une sorte de rapport JCPOA, qui permettait d'avoir cette tierce personne, c'était évidemment l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, est-ce qu'il va falloir le réinventer? On voit bien que, ou bien on réappelle l'ONU, ou sont des agences, ou bien on réappelle une tierce personne, peut-être ce sera la Chine, on va voir ce qui va se passer.
Jules, ce qui interroge, c'est quand même effectivement ce rapport, on le disait, de la CIA, cette capacité de résistance des Iraniens.
Exactement, c'est cette note de la CIA qui a été donc révélée par le Washington Post, qui explique que, en gros, l'Iran pourrait subsister malgré le blocage du détroit d'Ormuz pendant encore 3 à 4 mois. Alors déjà, peut-être première question, comment est-ce que vous expliquez cette capacité de résilience finalement du régime iranien malgré les sanctions qu'il subit? Et deuxième question, instruit par l'histoire, pourquoi est-ce que les dirigeants américains ne voient pas que dans l'histoire, l'Iran a pu subsisté pendant très longtemps, par exemple pendant le conflit contre l'Irak dans les années 80. Pourquoi est-ce que les Américains n'apprennent pas finalement de leurs erreurs dans les conflits au
Sur la deuxième partie de votre question, je vais revenir à la première dans un instant, j'ai répondu. Il faut voir quand même le mal que Elon Musk et son Doge ont fait à l'administration américaine. On est en train de le payer partout, et en particulier au département d'État. C'est absolument invraisemblable. Ouais. On avait, évidemment, on avait des très grands spécialistes qui connaissaient, effectivement, qui avaient cette culture, cette histoire, ouais, qui l'ont vécu. Ouais. Ils sont partis. Et croyez-moi, ils n'ont pas envie d'aider aujourd'hui l'administration Trump. Donc voilà. Et on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des spécialistes, je vais être déplaisant, mais enfin, de l'immobilier,
et ça manque de vista, quoi. C'est...
Bah, ça manque tout simplement de connaissances, parce que vous savez, le monde, c'est basé aussi sur l'expérience, sur l'histoire, sur la connaissance humaine, sur la psychologie, sur les relations internationales.
Et donc la psychologie iranienne, justement, comment est-ce que vous expliquez?
Alors maintenant, pour reprendre la première partie de votre question, évidemment, c'est pas une surprise. On sait que depuis 47 ans, ce régime des mollahs, dont il faut souhaiter du reste la perte, parce qu'on voit évidemment le drame, le mal qu'il fait à sa population, mais aussi quelque part au monde, ce régime des mollahs s'est préparé. C'est préparé à quoi? D'abord, parce que c'était sa volonté, elle était affichée, à essayer de, ou pas essayer, à faire disparaître l'État d'Israël. C'était indiqué. C'était son objectif. Sachant qu'il y aurait évidemment des répercussions potentielles, eh bien, il s'est préparé à ces répercussions. Et ça fait 47 ans qu'il s'y prépare. Avec donc une organisation, cette fameuse organisation alvéolaire, certains vont dire en mosaïque, où au fond, quand on élimine un responsable, il y en a 7 autres qui sont prêts à prendre la succession. Où au fond, cette organisation, en 30 ou 40 cellules quasiment autonomes, ont leur capacité de missiles, ont leur capacité de véhicules, les fameux TEL qui vont envoyer ces missiles, ont leurs drones, tout ceci étant enterré, tout ceci ayant été préparé, avec une autonomie également de gestion d'envoi, avec, là encore, de façon très claire, les cibles et où il faut tirer. Donc tout ça est complètement organisé. Ce qui est intéressant dans cette fuite qui a été révélée par le Washington Post, donc de la CIA, c'est d'abord que... Alors ils disent que les stocks au fond iraniens sont beaucoup plus élevés qu'on ne le pensait. Je pense qu'ils sont un peu optimistes, hein. Donc ils ont 70%. Je pense qu'on est plutôt en dessous de 50%, mais enfin d'après d'autres sources ouvertes, hein. Donc enfin en tout cas ça veut dire que les stocks sont encore là. Mais surtout je le redis, la capacité de continuer à les produire est grâce à qui, Guillaume Daret? Grâce aux Chinois, parce que ce sont les Chinois qui fournissent l'électronique duale, qui vont l'assembler, qui vont ensuite la fournir en Iran. Ce sont les Chinois qui fournissent les éléments de propulsion de ces missiles, de Propergol, et les éléments qui fabriquent ce Propergol. Ce sont les Chinois et les entreprises chinoises qui fournissent la capacité, donc comme Baidu par exemple, de guider les missiles par satellite. Par parenthèse, Trump vient de sanctionner 3 entreprises chinoises qui fournissaient des images.
Vous dites justement, mais Donald Trump, qu'est-ce que ça nous dit justement de Donald Trump, ce rapport notamment de la CIA, ce défaut d'anticipation, cette guerre commencée finalement sans en connaître ni la stratégie ni la sortie? On en est désormais à plus de 70 jours. Qu'est-ce que ça nous dit de Donald Trump?
C'est quasiment bis repetita. On est de nouveau dans la logique Bush qui nous avait inventé ces armes en Irak, ces armes soi-disant de destruction massive. C'était ce qui avait justifié, légitimé cette guerre. On s'en souvient parfaitement, avec toutes les conséquences que ça a eues, qui n'ont pas été bénéfiques ni pour l'Irak, ni pour les États-Unis, ni pour le monde. Et bien voilà, on est de nouveau dans une logique quasiment... Alors, la comparaison n'est pas raison, évidemment, vous me pardonnerez. Mais enfin, malgré tout... Je crois que maintenant, il est parfaitement documenté, et encore une fois, on fait injure à personne que de le dire, que c'est évidemment à la fois le succès, peut-être certains diront l'hubris de Donald Trump, lorsque en 2 jours, il a réussi à aller kidnapper Monsieur Maduro au Venezuela, avec une opération que tout le monde a saluée en matière de logistique militaire. Fort de ce succès, on se souvient qu'il a dit du reste, aux malheureux Iraniens, qui défilaient dans les rues depuis le 28 décembre. Écoutez, allez-y, parce que j'arrive. Ils y sont allés Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? J'irai pas jusque-là, mais certains le disent. 30, 40 000 morts. J'arrive, il n'est pas arrivé. Et puis, là-dessus, Benjamin Netanyahou, dont on sait que son objectif, son ambition, c'est évidemment en permanence, il a essayé avec tous les présidents des États-Unis qui se sont succédés sans succès, de déclencher ce conflit très important contre l'Iran. Il a donc réussi à convaincre, c'est maintenant très documenté, en tout cas, notamment par le New York Times, mais d'autres, il a réussi à convaincre, finalement, Donald Trump, qu'il pourrait refaire l'opération Maduro en décapitant donc le régime et en opérant un changement de régime. Eh bien, on voit où ça nous a mené.
Détroit d'Ormuz bloqué, pays européen qui essaye de se mobiliser. On l'a vu, voilà. Le Royaume-Uni et la France aussi, Jules.
Qui a donc envoyé le porte-avions Charles de Gaulle qui a franchi le canal de Suez pour arriver dans le golfe d'Aden. Est-ce que, d'après vous, c'est une solution de faire étalage de sa puissance maritime de cette manière-là?
C'est extrêmement important. D'abord, il faut rappeler que cette guerre n'est pas notre guerre. Et pour toutes les raisons que je viens de rappeler à l'instant. On voit comment elle a démarré. Les buts de guerre n'ont fait que changer. Cette guerre n'est pas notre guerre. Mais nous sommes tous impactés, massivement impactés. Bien entendu, l'ensemble des pays du Golfe. On a parlé de la Chine, et on en reviendra, notamment pour son économie. Nous, évidemment, en Europe, et plus ça dure, plus on sera impacté, mais également les États-Unis. Il faut rappeler peut-être pour nos téléspectateurs que le prix du gallon ce matin est passé à 4,50 $. Il était à 2,88 $ avant les hostilités. Ça veut donc dire qu'aux États-Unis, on commence à payer aussi très cher les conséquences de ce conflit. Alors maintenant, sur la position française, et j'allais dire à travers la position française, il faut la lire comme une position européenne. Derrière l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle, il y a évidemment toute une flottille, toute une flotte qui va accompagner le porte-avions, et notamment de frégates européennes. C'est donc finalement un déploiement non pas français. Bien sûr, c'est la France qui est le fer de lance. Et ça envoie un message. En matière de défense, que ce soit pour l'Europe ou pour la projection sur le reste du monde, la France est le leader en Europe.
Et pour
Il faut jamais l'oublier.
Et pour vous, on parle de quel calendrier? Parce qu'on sait que la France n'interviendra pour libérer le détroit que si un accord est conclu.
Alors j'y viens.
Question de moi.
Donc il est très important, à un moment où les États-Unis commencent à se désengager. Je rappelle qu'il y a maintenant un porte-avions de moins, ils étaient trois, et qu'il y en a un deuxième qui va partir. Donc on se met dans une posture où dans les jours qui viennent, semaines qui viennent, il n'y aura plus que deux porte-avions, et évidemment avec toute la base aéronavale qui l'entoure, et évidemment les frégates, donc deux groupes, donc le groupe américain et le groupe européen. C'est important parce que je suis de ceux qui pensent qu'on va rentrer dans une phase de diplomatie. On ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, tout le monde veut que ça s'arrête, sauf peut-être les Iraniens. Mais les Iraniens feront à la fin ce que les Chinois diront. Les Chinois veulent que ça s'arrête. Parce qu'au fond, les Chinois, alors on sait que 50% de leur pétrole est acheté dans le Golfe, on sait aussi qu'ils ont un besoin vital, existentiel. Ils gèrent ça, à la limite. Parce que voilà, ils ont 1,4 milliard de réserves stratégiques de barils de pétrole. Ils gèrent, ils sont pas trop impactés par ça. En revanche, là où ils sont impactés, c'est si le reste du monde commence à ralentir, et c'est le cas, que ce soit au Moyen-Orient et que ce soit en Europe, et c'est le cas, alors ils exportent moins. Et s'ils exportent moins, ils ont un problème massif en Chine. Il faut avoir deux chiffres en tête. La Chine importe 50% de son pétrole et ses hydrocarbures du Golfe. Bah, aujourd'hui, ça lui pose un vrai problème. Et la Chine exporte 50% de tout ce qu'elle doit exporter au Moyen-Orient et en Europe. Et comme on baisse aujourd'hui nos importations, pourquoi? Parce qu'il commence à y avoir, évidemment, une baisse de l'activité économique, peut-être même une récession. Ceci a un impact immédiat en Chine. Et on commence à voir des usines qui ferment, des usines qui se mettent à l'arrêt, du chômage qui arrive, des mouvements sociaux.
Mais donc, justement, donc
la Chine a besoin de trouver un accord. Les États-Unis ont besoin de trouver un accord. Je rappelle que les mid-termes, c'est bientôt. Jamais un président n'a été aussi impopulaire à ce moment que Donald Trump ne l'est. Il le sait. Je viens de rappeler un indicateur très important pour les élections, le prix du gallon d'essence. Je viens de le rappeler. L'inflation est passée de 2,7 à 3,3% aux États-Unis. Elle est en route pour 3,5. Donc tout ça fait que aujourd'hui, eh bien vous voyez, je vais dire les choses très simplement. Les États-Unis ont vraiment besoin que ça s'arrête. Mm-hmm. La Chine a besoin que ça s'arrête. L'Iran, à la fin, fera ce que la Chine lui dira de faire. Et nous derrière, et nous l'Europe, eh bien on voit bien que on devient quasiment une variable d'ajustement si on ne réagit pas. Pourquoi dis-je ceci? Parce que Trump voit bien que la Chine a besoin de continuer d'avoir de la stabilité pour continuer à exporter. Mais continuer à exporter, ça veut dire quoi? Utiliser ses surcapacités pour avoir un effet de prédation industrielle sur l'Europe.
Et alors,
donc vous voyez bien que pour nous, il s'agit maintenant de prendre les choses à bras-le-corps, de changer de logiciel, d'arrêter ce que je vois aujourd'hui. On a des institutions européennes qui sont, je le dis vraiment, mais totalement en dessous de la situation. Il faut désormais maintenant avoir du leadership. Parce que voilà le monde qui est en train de se décrire. Et nous, pendant ce temps-là, on est en train de s'envoyer des mamours. Mais enfin, le monde de bisounours est terminé. Donc oui, l'envoi d'un groupe aéronaval, comme le fait la France, avec les pays européens, ça va dans le bon sens, parce que c'est un signe diplomatique que dans cette phase qui s'ouvre, et on espère, on va finir par trouver un accord, un équilibre, avec peut-être une tierce personne, notamment pour, l'accord qu'il faudra bien trouver sur le nucléaire, eh bien, l'Europe se met en situation de jouer son rôle avec les États-Unis, avec les pays du Golfe et bien entendu avec l'Iran et la Chine.
Vous avez dit conséquences immédiates, évidemment, conséquences immédiates pour les Américains, mais aussi pour nous en France sur les prix du carburant. Ce matin, dans la tribune dimanche, Jean-Luc Mélenchon explique que pour lui, l'urgence, c'est le blocage des prix des carburants. Vous êtes d'accord avec lui? C'est la solution qu'il faut prendre en France?
Non, mais je veux pas commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme politique candidat à la présidence de
la
République.
Mais l'idée en tant que telle,
elle a aucun sens. Donc on va pas la commenter.
Pourquoi?
Elle a aucun sens parce que, pour une raison extrêmement simple, parce que aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, c'est deux choses. C'est le fait que tout ce qui est gagné, parce que finalement il y a de la TVA sur tout ça, et l'État va gagner donc un peu d'argent donc par rapport à l'augmentation des recettes dues à cette TVA, okay. Et bien que tout ceci soit redistribué à l'euro près, donc à
ça,
ceux qui en ont besoin.
Le Premier ministre a annoncé que ce serait fait.
Si jamais, alors on peut toujours s'amuser à dire, je vais donc, par exemple, baisser la TVA à 5,5, certains le disent, sur...
Ça, c'est ce que souhaite le Rassemblement national.
Ça coûte entre 15 et 17 milliards. Donc très bien, pourquoi pas? Mais ça veut donc dire, quelque part, qu'il faut retrouver d'autres taxes de 15 à 17 milliards ailleurs. Donc de toute façon, on est dans un moment, encore une fois, qui est un moment qui est artificiel pour son origine, mais concret pour nous tous.
Oui, parce que ceux qui nous regardent, qui font le plein tous les jours, oui. ils disent c'est pas une crise artificielle.
Je peux vous dire que quand je vais dans la Creuse, je vois ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire les agriculteurs, je peux vous dire qu'ils sont vraiment les premières victimes. Tous ceux qui ont besoin de leur voiture, et ils ont tous besoin de leur voiture, il n'y a pas d'autre moyen de transport. Ce sont les premières victimes. Donc bien sûr qu'on est les victimes. On est les victimes d'une action, qui est une action qui a été voulue et qui est à la main d'un seul homme. Cet homme s'appelle Donald Trump. Donc il faut gérer cette situation, donc encore une fois, en accompagnant ceux qui en ont le plus besoin. Mais voyez-vous, je vais vous donner un chiffre qui va peut-être aussi éclairer nos téléspectateurs sur la capacité de la France. Le Premier ministre a indiqué que finalement, à cause de cette crise, ça allait nous coûter à la France un peu plus de 6 milliards d'euros. Vous avez vu ces chiffres qui ont été repris du reste par le ministre des Finances. Et il dit dans ces 6 milliards d'euros qu'il y en a 3,8 milliards qui sont à payer en plus pour les intérêts de la dette, parce qu'évidemment, compte tenu de l'inflation, les intérêts de la dette augmentent. Ça veut donc dire, Guillaume Daré, qu'on a dégagé aujourd'hui 190 millions d'euros de plus de surplus de TVA. L'État, qui a été généreux, va distribuer dans les deux mois qui viennent, va distribuer 450 millions. 450 millions distribués à ceux qui en ont le plus besoin, et c'est important, et c'est normal, et c'est juste. Et en parallèle, 3,8 milliards distribués à nos créanciers. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui. Dans une période de crise comme nous la vivons.
Mais les Français, pour l'instant, n'ont pas touché cet argent.
Voilà ce qu'est la. Je vais vous le redire. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui. L'impact de cette crise, elle doit nous coûter, évidemment. Et on va redistribuer 450 millions, donc, à ceux qui en ont le plus besoin. Et on redistribue, parce qu'on est obligé sans ça, la France ne peut plus respecter sa signature. 10 fois plus, 3,8 milliards à nos créanciers.
Vous avez
voilà le pays aujourd'hui qu'on laisse à nos enfants et on est rattrapé par notre passé, c'est bien la raison pour laquelle...
Oui, mais Thierry Breton, est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui ce soit Total qui globalement aide les Français avec son plafonnement des prix qu'il poursuit pour le moment? D'ailleurs, 7 Français sur 10 voudraient que Total fasse plus que ça. C'est normal qu'il pallie presque finalement les aides de l'État?
J'aime beaucoup votre question parce que ça justifie le fait qu'on peut être très fier d'avoir des grands groupes internationaux et on peut être fier en France d'avoir l'un des plus grands groupes pétroliers mondial, même si on n'a plus de pétrole en France et on n'a plus de gaz non plus. Et pourtant, on a l'un des tout premiers groupes mondiaux. Et alors, certains voudraient le voir partir parce que c'est affreux, il fait des bénéfices. Donc, c'est affreux, les entreprises qui font des bénéfices, on veut les chasser. Eh bien, voyez-vous, je suis... Je suis de ceux qui regardent, comme tout le monde d'abord, ce que c'est que ce groupe. C'est un groupe international. C'est un groupe international qui paye 19 milliards de taxes et impôts, globalement, dont 2 milliards en France. En France, son activité, c'est de la distribution. Et donc, c'est une activité qui est quasiment à perte. Il paye malgré tout 2 milliards d'impôts. Et le reste, c'est payé. Ben, là où on crée l'activité, c'est effectivement réglé par 125 conventions fiscales que nous avons avec les autres pays du monde, et donc qui font que les entreprises mondiales sont taxées de cette façon. Eh bien, qu'est-ce qu'a choisi Total ? Total est le seul groupe au monde. Je le dis ce matin, je ne suis pas du tout l'avocat quiconque, hein, mais Total est le seul groupe au monde qui a décidé précisément de bloquer les prix et de les bloquer où ? En France, parce que Total est une entreprise française. Eh bien, je suis absolument sidéré par la discussion que nous avons, plutôt que de dire, écoutez, merci, c'est quand même bien d'avoir des grands groupes et qui se comportent de façon aussi citoyenne. Certains disent, mais quoi qu'est-ce ? Mais c'est honteux, mais il faudrait... Voilà, donc la France, c'est aussi ça. Il est temps, encore une fois, peut-être de faire de la pédagogie, d'expliquer exactement ce que sont nos grands groupes, ce qu'ils font, et puis, quelque part, de se réjouir d'en avoir. Et puis, quand les groupes ont un comportement citoyen comme Total, de le souligner, ni plus, ni moins.
On parle de Total, mais vous avez été ministre des Finances. Que feriez-vous face à la situation actuelle si vous étiez aux manettes à Bercy?
Eh bien, exactement aujourd'hui ce que fait l'État, c'est-à-dire faire en sorte que l'État n'engrange aucun centime du surplus qu'il va pouvoir engranger compte tenu de cette montée artificielle du prix du pétrole. Je vais répondre très précisément. J'ai fait les calculs pour pouvoir répondre à votre question. J'ai fait les calculs de combien l'État gagne par augmentation de 10 dollars du baril. L'État, par augmentation de 10 dollars du baril, on sait qu'on a démarré la guerre, on était à peu près à 65 dollars. Et aujourd'hui, à une centaine. Par augmentation de 10 dollars, quand on passe de 60 à 70, l'État gagne entre 30 et 60 millions d'euros. Voilà. Ça veut donc dire que quand vous augmentez de 30 millions, de 30%, pardon, c'était le cas pratiquement depuis le début des hostilités, vous avez, si vous prenez la borne haute, 180, 190 millions. Et on retrouve le calcul. Voilà. Alors on a derrière, évidemment, une baisse d'activité économique, donc aussi des baisses de rentrée fiscale. C'est pour ça que je donne la fourchette entre 30 et 60 millions. Il est indispensable. On a des instruments maintenant pour le calculer, pour le faire de façon très précise. On a aussi des instruments pour pouvoir suivre de façon beaucoup plus précise. Je suis celui qui, avec Jean-François Copé, qui a mis en place les éléments de la retenue à la source. Donc, on sait faire de façon... C'est le moment où tous nos compatriotes...
remplissent leurs déclarations.
Et vous voyez que quand vous avez les déclarations, c'est quand même formidable. Vous avez l'ensemble des éléments. Donc, on sait de façon très, je dirais, spécifique, ciblée, précise.
Thierry Breton.
Qui peut avoir besoin de quoi. Il faut donc utiliser effectivement ce savoir-faire, peut-être aussi l'intelligence artificielle, très rapidement, pour aider ceux qui en ont le besoin, réponse courte, s'il vous plaît.
Amandine.
Oui, question courte, réponse courte. Est-ce qu'on pourra retrouver les prix d'avant la crise, par exemple de mémoire du samplon 95 à 1,60 €, possible ou pas?
Ça, j'ai pas de boule de cristal. Si jamais, peut-être qu'on dira un mot de ce qui peut se passer en Chine, parce que vraiment beaucoup de choses vont se passer cette semaine. On est vraiment à la veille d'une semaine critique. Si on commence à voir les termes d'un accord, au fond d'un statu quo qui se prolonge et progressivement d'un déblocage de ce double blocage du détroit d'Hormuz. Voilà, combien de temps il faudra pour revenir à une normalité?
Vous n'excluez pas que ça puisse baisser beaucoup?
Non, je crois que ce serait faux de dire que ça va baisser complètement. Ça va baisser évidemment, Je le rappelle, on n'est pas dans une crise, encore une fois, de la production. La production est là. On est dans une crise, d'abord financière, créée artificiellement, parce qu'il y a un goulet d'étranglement. Donc, il faut recréer, effectivement, la capacité donc d'acheminer, au fond. La production est là. Certes, il y a eu certains puits qui ont été endommagés, certaines raffineries qui ont été endommagées. Il va falloir, évidemment, les réparer, les réhabiliter. Mais derrière, ce qui est très important, c'est qu'on a encore des stocks très significatifs. À partir du moment où on sait que, je dirais, le conflit est en train de trouver une issue, il faudra peut-être 6 semaines, 2 mois, les avis divergent, mais je crois que c'est ça ce qu'il faut avoir en tête pour revenir progressivement à une logique que nous avons connue auparavant, c'est-à-dire, espérons-le, mais encore une fois, il faudra voir ce qui se passe dans 3 jours, dans 4 jours c'est à bon. Pékin, au cœur de l'été.
Les prochaines réponses, c'est dans quelques secondes. Vous restez avec nous. Quel impact sur votre vie quotidienne alors que la tension reste extrême? Un navire a encore été ciblé il y a quelques heures dans le détroit d'Hormuz. BFM Politique consacré à cette crise, cette guerre au Moyen-Orient se poursuit. Notre invité exceptionnel Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre, tension qui reste extrême dans la région puisque ce matin un navire a été ciblé dans le détroit d'Hormuz. Téhéran promet une riposte massive contre les bases américaines dans la région si Washington continue d'attaquer des pétroliers dans le détroit. Et un autre pays a été ciblé ce matin puisque c'est le Koweït qui annonce avoir été la cible d'une attaque de drones. Thierry Breton, c'est une recomposition aussi pour ces pays de la région, Émirats Arabes Unis, Koweït, on les décrivait parfois comme la Suisse du Moyen-Orient. Ça, c'est terminé. C'est ce que montre cette guerre.
En tout cas, ce que l'Iran a réussi à faire, c'est à faire apparaître maintenant de façon claire et sans doute durable une fragmentation précisément du Moyen-Orient. On voit effectivement, parce qu'on savait un peu déjà, évidemment, les Émirats et Bahreïn, donc dont on, il faut rappeler qu'ils étaient signataires du traité d'Abraham, et donc qui sont structurellement près d'Israël et des États-Unis. Donc ils ont été du reste très très ciblés. Ils se sont complètement, je dirais, désolidarisés, y compris en allant jusqu'à quitter l'OPEP pour les Émirats, ce qui est quand même pas rien, en prévenant personne, puisque l'Arabie Saoudite déclare l'avoir appris par la presse. Donc oui, il y a cette recomposition. On voit aussi l'Arabie Saoudite dire finalement aux États-Unis, qui était quand même le grand partenaire, le grand allié. Mais écoutez, là, non, vous n'allez pas utiliser les bases, y compris vos bases américaines, c'est interdit. Et vous vous rendez compte, le monde dans lequel on est rentré. On se souvient que le premier voyage de Donald Trump était précisément dans le Golfe, après avoir été réélu 47e président des États-Unis, et en particulier en Arabie Saoudite, où il avait soi-disant obtenu l'engagement de 1000 milliards, excusez du peu, un trillion de dollars d'investissement des Saoudiens aux États-Unis pour aller financer en particulier la bulle IA. Et bien, vous pouvez me croire, en tout cas j'en prends le pari, cet argent, il n'ira pas aux États-Unis, il va servir évidemment à consolider mais désormais la défense et la structure, l'architecture de défense saoudienne, parce que la confiance avec les États-Unis, elle est très abîmée. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. Elle est abîmée, il faut donc l'élargir, à reconstruire aussi le pays, ce qui a été détruit, et puis avoir d'autres sources pour pouvoir exporter les hydrocarbures. Donc on voit effectivement qu'il y a une recomposition totale par un cercle concentrique autour précisément de ce conflit autour du détroit.
Je vous communique cette information qui nous arrive à l'instant. Le chef de l'armée iranienne rencontre le guide suprême Mojtaba Rahmanai. Selon la télévision d'État, on ne sait pas effectivement vraiment dans quelles conditions de santé se trouve le guide suprême, le chef de l'armée iranienne qui affirme donc rencontrer le guide suprême selon la télévision d'État. On le disait, la Chine qui va peut-être jouer un rôle absolument stratégique dans ce conflit au Moyen-Orient, et bien sûr, Donald Trump, ça va être la rencontre de la semaine, va se rendre le 14 et 15 mai, cette semaine, rencontrer le président chinois. On part tout de suite à Washington, retrouver Sami Sfaxi. Sami, qu'est-ce qui va se jouer cette semaine? Qu'est-ce qui est prévu? Et évidemment, l'Iran va être au cœur des discussions entre les deux hommes.
Bien sûr, Guillaume, et c'est vrai que l'administration Trump commence d'ores et déjà à montrer les muscles. Hein. C'est ce qu'en tout cas révèlent nos confrères du Financial Times, à l'image justement de ces trois entreprises chinoises qui ont été sanctionnées par les États-Unis. Ces entreprises sont soupçonnées en fait d'avoir délivré à l'Iran du renseignement militaire, notamment ces images satellites très haute résolution qui ont permis à l'Iran de frapper avec précision les bases américaines. C'est en tout cas ce que disent les États-Unis, mais c'est vrai que ça ne pourrait ne pas s'arrêter là, puisque nos confrères de CNN hier soir disaient que dans les prochains jours, on pouvait s'attendre à d'autres annonces de ce type pour accentuer la pression sur la Chine, faute d'un accord que l'on attend, bien sûr, entre les États-Unis et l'Iran sur les prochaines négociations.
Merci beaucoup Sam Isfaxi avec Corentin Guistot à Washington. Thierry Breton, c'est vraiment un moment capital qui va se dérouler cette semaine avec cette rencontre entre Donald Trump et le président Xi. On entendait à l'instant Samy, est-ce qu'on peut dire clairement que les Iraniens sont soutenus par les Chinois dans cette guerre ?
Ah ben, c'est clair que les Iraniens sont soutenus par les Chinois depuis très longtemps, pas que dans cette guerre. Ils sont aussi soutenus par les Nord-Coréens. Ils sont aussi maintenant, ils ont des relations très étroites. Là encore, ça a été révélé dans les économistes avec la Russie. Du reste, on appelle désormais de ce néologisme un peu bizarre cette alliance les Krings, China, Russie, Iran et Nord-Coréa. Les Krings, oui, bien sûr. Tout ça soutient l'Iran, évidemment. Je l'ai rappelé tout à l'heure en ce qui concerne la Chine, bien sûr. C'est la capacité que la Chine a offert à l'Iran finalement de contourner les sanctions. On se rappelle évidemment, il faut s'en souvenir, hein, l'Iran est sous sanctions précisément pour ne peut pas vendre son pétrole. Donc c'est la Chine qui achète 80% du PAM d'hydrocarbures iranien. Donc c'est la Chine qui quelque part contribue au budget iranien. Mais également, il faut jamais l'oublier, et je le redis, en ce qui concerne l'architecture de défense, notamment les missiles pour leur propulsion, les semi-conducteurs, donc tout ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran a cette capacité de répondre de réponse asymétrique. Donc oui, la Chine joue un rôle très important, mais pour revenir sur ce voyage, qui est un voyage, je crois quand même, l'un des plus importants que Donald Trump va avoir à accomplir depuis son second mandat. Au fond, qu'est-ce que veut Donald Trump ? Il veut trois choses. Il va d'abord venir pour dire on rétablit les relations commerciales. Il faut se souvenir que Trump a perdu la guerre commerciale contre la Chine. Il faut le redire. Souvenez-vous qu'il avait mis à un moment 145% de droits de douane pour essayer de faire plier la Chine. Et finalement, il a été évidemment renvoyé dans ses cordes, si vous permettez cette expression triviale, par la Cour suprême. Il vient d'être renvoyé dans ses cordes désormais par la Cour de commerce internationale américaine. Et donc aujourd'hui, on a quoi ? On a une Chine qui a des droits de douane à 11%. Oui, bien entendu, à 11% pour exporter aux États-Unis. Nous, en Europe, on a 15%. Et on nous dit que c'était le meilleur deal. Et pourquoi ? Parce que la Chine a résisté. Et comment elle a résisté ? Eh bien, c'est le point. Elle a résisté en disant, mais attendez, moi, je contrôle l'ensemble des terres rares. Les terres rares, c'est ce qui est important pour fabriquer des semi-conducteurs, pour fabriquer également l'ensemble de l'armement, par exemple.
Des armements, les missiles, absolument.
Par exemple. Et mais aussi tout ce qui compose, tout ce qui concourt à la fabrication des data centers c'est et ça. Autres pour l'intelligence artificielle. Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis ont un besoin vital, crucial, de recomposer leur stock de missiles Patriot, leur stock de tous ces missiles qui ont été envoyés. Ils sont vraiment très bas dans leur stock, contrairement donc à ce que la CIA dit des Iraniens. Et pour ça, il faut quoi ? Eh ben, il faut du gallium, c'est-à-dire des terres rares, 100% à la main des Chinois, et des aimants permanents. C'est-à-dire des micro-aimants qui sont dans toutes les têtes de chaque missile, mais ils sont aussi dans les voitures, ils sont partout. Là encore, 98% à la main des Chinois. Et donc, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut essayer de garantir ça. Qu'est-ce qu'il va apporter en face ? Il va apporter, il est d'accord pour vendre ce que veulent les Chinois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent les Chinois ? Ils veulent des avions. Donc, vous allez voir, ils vont avoir des très belles commandes de Boeing. Les Chinois vont dire en même temps, on vous rachète beaucoup de vos produits, soja et autres, aux agriculteurs américains qui en ont besoin. Et puis quoi? Et puis évidemment, tous les semi-conducteurs, parce qu'on sait qu'il y avait des interdictions de semi-conducteurs, en particulier de la fameuse société Nvidia, parce qu'il fallait limiter les progrès technologiques. Donc, il va sans doute là aussi lâcher. Donc, on va avoir ces éléments d'une sorte de deal qui va se produire. Et je pense que, on va dire, c'est gagnant-gagnant. Les Chinois vont évidemment vouloir maintenir les 11%. Les Américains vont vouloir monter un peu. On verra bien ce qui se passe. Et puis derrière, il y aura deux choses. Il y aura évidemment, qu'est-ce qui se passe en Iran? Là, les Chinois sont absolument, mais radicaux. C'est-à-dire, il l'a dit du reste. Il faut toujours écouter ce que disent les Chinois. C'est pas comme Trump. Ils changent pas d'avis. Mmh. Il y a eu une visite, il y a trois jours, donc, du ministre des Affaires étrangères iranien qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères chinois. Par parenthèse, après être allé à Moscou. Pour voir monsieur Sergueï Lavrov. Très bien. Et qu'est-ce qu'ont dit les Chinois? L'Iran doit être un pays autonome. Sous-entendu, on garantit son autonomie. Ça veut dire on arrête les changements de régime. Et puis, ils ont dit également, et l'Iran doit avoir la possibilité de développer son nucléaire civil. Donc ça y est, ils ont mis les lignes rouges. Ça veut donc dire que les Chinois sont d'accord, implicitement, avec les États-Unis et quelque part nous tous, pour dire, bon, pas d'armes nucléaires, mais du nucléaire. Donc on va rentrer dans une négociation. Comment faire? Je rappelle que la Chine et que l'Iran est vraisemblablement, d'après les informations qu'on peut avoir, à peu près à un an de la capacité d'avoir l'arme nucléaire. C'est ce que disent au fond les sources les plus éclairées, ouvertes.
Est-ce que stratégiquement, c'est très proche cette rencontre, c'est dans 4 jours, Donald Trump peut frapper l'Iran avant précisément de rencontrer le président chinois?
Non.
Ou pas?
Je ne pense pas, pour les deux raisons qu'on a déjà évoquées. La première, c'est que ça serait vraiment se mettre en contradiction par rapport au Congrès, et donc je pense qu'il ne voudra pas le faire. Et deuxièmement, bon, il envoie des signaux là, en mettant sous sanction 3 entreprises chinoises. C'est un secret pour personne que la Chine aide, donc il envoie un signal peut-être pour renégocier ensuite avec la Chine. Mais il y a un dernier élément qui est très important, qui est l'éléphant dans la pièce, c'est évidemment Taïwan. L'élément qui est l'éléphant dans la pièce, c'est que il faut jamais oublier que en janvier 2028, il y a des élections à Taïwan. Le président actuel est vu comme un indépendantiste, je mets des guillemets, par la Chine, et la Chine ne voudrait pas qu'il soit réélu. Et donc là, il y a sans doute une attente d'une évolution possible de la position américaine. On sait que c'est le statu quo pour l'instant. C'est le statu quo, donc un pays de système et statu quo. Les Chinois aimeraient que les États-Unis bougent un petit peu. Par exemple, qu'ils disent, on est contre l'indépendance. Cette petite phrase vaudrait très cher. Ça changerait que le signal serait envoyé à Taïwan, que les Américains commencent à lâcher les indépendantistes et que vraisemblablement, le président actuel ne pourra pas se faire élire. Donc, il y a des phrases qu'il va falloir regarder à la loupe. Et c'est la raison pour laquelle je dis que, en fonction des rapports de force, il faut quand même dire les choses. Trump arrive en Chine en état de faiblesse.
En état de faiblesse.
En état de faiblesse, parce qu'au fond, regardez, la Chine apparaît aujourd'hui comme l'acteur qui est l'acteur de stabilisation. Même si, et je le redis, la Chine a besoin, et j'allais presque dire, a besoin existentiel de trouver un accord assez rapidement, parce que la situation intérieure en Chine devient préoccupante pour son économie. Il faut jamais oublier que la moitié de la croissance chinoise, la Chine doit faire en gros entre 5 et 6% de croissance par an pour éviter les drames sociaux.
Mais les Chinois...
La moitié de cette croissance provient des exportations, et j'allais dire des surexportations. La Chine est en surcapacité absolue. Le yuan est totalement dévalorisé, ce qui met les entreprises chinoises en situation, très dominante par rapport à tout le monde, y compris pour nous en Europe. Et donc on voit quelque part quoi? On voit que finalement, la Chine va vouloir de la stabilité pour revendre ses produits en Europe et au Moyen-Orient. Ça, ouais. Trump, il s'en fiche. Donc, il faut dire, très bien, revendez vos produits en Europe, ça met de toute façon les usines européennes par terre, moi, ça me dérange pas. Et on voit là encore que si on ne réagit pas, nous, et qu'on a un comportement, et je le dis, comme aujourd'hui, je le regrette, nos institutions européennes ne prennent pas la dimension de ce qui se passe, eh bien, on va être la variable d'ajustement.
Thierry Breton, là, ça continue évidemment cette grande instabilité dans la région, puisqu'à l'instant, après le Covid, ce sont les Émirats Arabes Unis qui disent avoir été visés par 2 drones iraniens. Les Émirats Arabes Unis visés par 2 drones iraniens. On le disait, est-ce que la Chine, qui va avoir un rôle stratégique, peut tordre le bras aussi bien à Washington qu'à Téhéran et imposer la paix?
Alors d'abord, évidemment, à Téhéran, bien sûr. Parce que encore une fois, je le rappelle, la Chine, c'est finalement la garantie de fournir à l'Iran ce dont elle a besoin pour son budget. Parce qu'encore une fois, je rappelle que l'Iran est sous sanction.
Et tordre le bras à Washington.
Alors, je finis également. Et la Chine, encore une fois, est le pays qui, évidemment, implicitement, C'est ce qu'a du reste voulu désigner Trump en sanctionnant ces trois entreprises fournisseurs d'images de satellites, en aidant l'Iran à avoir son architecture donc de défense dans la guerre asymétrique. Alors sur les États-Unis, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'il veut Trump? Il veut aussi, et on le sait maintenant, il veut sortir de cette affaire. Certains du reste le qualifient désormais de bourbier pour trois raisons. D'abord parce que ça lui coûte très cher économiquement, contrairement à ce qu'on dit, ça coûte cher économiquement. Une inflation aux États-Unis à 3, bientôt 3,5, alors qu'elle était à 2,7 avant, ça coûte cher. Des taux d'intérêt qui augmentent, ça coûte cher. Je rappelle que les États-Unis c'est le pays le plus endetté au monde. Politiquement, ça coûte cher
pour les mid-termes.
Et enfin, c'est son propre camp, les MAGA, ils aiment pas la guerre. Ils ont élu Trump parce que c'était soi-disant l'homme anti-guerre. Donc pour lui, il veut évidemment arrêter. La Chine, elle veut arrêter pour des raisons économiques. Donc oui, aujourd'hui, l'Iran fera évidemment à la fin ce que la Chine lui dira de faire.
Thierry Breton, je vais vous poser une question. Regardez sur cette image qu'on voit en petite fenêtre les passagers français, effectivement, qui étaient présents sur cette croisière ont été déclarés asymptomatiques. C'est ce qu'annonce effectivement à l'instant l'ambassade. Les premières évacuations de près de 150 passagers et membres d'équipage du navire de croisée MV Ondus, où a été détecté un foyer, ont débuté. Vous étiez commissaire européen au moment de la crise, évidemment, du Covid. Monsieur Vaccin, c'est un si vous avez été décrit. Est-ce qu'avec aujourd'hui le temps qui s'est passé depuis cette crise du Covid, vous diriez que nous sommes prêts à faire face à d'autres épidémies? Et est-ce que nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé au moment du Covid?
Bon, d'abord, c'est vrai que je me suis occupé de l'aspect industriel et qu'on a réindustrialisé l'Europe en matière de capacité de production de vaccins. Et à l'époque, c'était des vaccins ARN messagers, vous vous en souvenez essentiellement. Mais ce qui est certain, c'est que il semble que aujourd'hui, on n'a pas de vaccin contre ce virus. En tout cas, pas que je sache.
Mais donc, plus largement pour faire face à des épidémies ou des pandémies, c'est pas le cas qui se déclarait.
On a de très bons immunologues, notamment la Pitié-Salpêtrière. On a parmi les meilleurs au monde. Mais le vaccin, il est pas là. En revanche, ce qu'on avait mis en place, et c'était quelque chose qu'on avait proposé avec mes équipes. C'était une structure, on appelait ça dans notre jargon « ever warm », c'est-à-dire toujours chaud, c'est-à-dire qualifié donc parmi le réseau désormais d'usines de fabrication de vaccins qu'on a créé effectivement en Europe à cette occasion, d'avoir en permanence, donc ça s'appelait ERA, le programme qu'on a lancé, d'avoir en permanence ces usines qui sont prêtes à être réactivées donc dès qu'il y en aurait besoin. Donc il y a ce réseau aujourd'hui qui existe, on est mieux équipé évidemment qu'on l'était à l'occasion du Covid. Il avait fallu, vous en souvenez, que je fasse le tour d'Europe, ça avait été très laborieux, mais on était parvenu en 6-8 mois à faire en sorte que l'Europe devienne, je dirais, le continent qui a vacciné non seulement nos compatriotes, concitoyens, mais aussi 125 pays en dehors de nous. Donc ça, cette infrastructure, elle a été réduite. Elle existe, elle peut être réactivée en cas de besoin.
Merci beaucoup Thierry Baudron, merci Jules, merci Amandine. L'information continue bien sûr sur BFM tout de suite. C'est Loïc Besson et Émilie Brousselot.